Eh bien, bienvenue dans la deuxième partie de Onde Noire. Nous avons profité des informations pour rentrer de Marseille du Mucem sur Grasse et vous rejoindre pour quelques chroniques de livres. Corinne?
D'abord, quelques paroles.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
Donc vous avez entendu Jacques Dutronc. Je ne savais pas trop en fait comment vous parler du dernier roman de Wes Anders, qui s'appelle La chute de Monsieur Fernand, et qui a été publié, qui vient d'être publié chez Seuil Policier. Une fantaisie, pensais-je, une pure fantaisie littéraire. Mais j'avais trouvé la musique, vous avez entendu. La place Blanche. La place Blanche qui a mauvaise mine, en ce matin, où un cadavre est retrouvé dans une poubelle. Un homme assassiné à coups de pique de glace. En fait, c'est le corps de Monsieur Fernand, comme le titre l'indique, la chute de Monsieur Fernand. Et Monsieur Maire Fernand, c'est Fernand le Gras, un faussaire célèbre, tout au moins qui fut très connu, autant au temps où il vendait des faux aux célébrités du monde entier. Et donc évidemment, il y a enquête. Mais l'enquête va surtout consister à plonger dans le passé sulfureux de cet homme qui a connu grandeur, richesse, honneur, gloire, puis une chute inéluctable une fois son trafic découvert. Cet homme qui a côtoyé Marilyn Monroe, les stars des années 50, le voilà devenu fantôme à Pigalle. Dans sa Rolls-Royce Silver Shadow, en manteau de poil de gorille et son chapeau à large bord. Dans son sillage, il y a Karl, l'amant fidèle, le majordome. En fait, lui, on ne peut que l'imaginer sous les traits d'Eric von Stroheim. Vous vous souvenez d'ailleurs le prénom allemand, Eric, Karl. Vous vous souvenez de ce majordome, cet homme à tout faire dans Sunset Boulevard qui protège jusqu'au bout la star déchue Gloria Swanson. Fernand Le Gras, maintenant, les gens qu'il côtoie au 11 boulevard de Clichy où il habite, font partie en gros du Paris populaire d'il y a 30-40 ans. Des gens qui n'existent plus vraiment dans Paris intramuros, ou si peu. Il y a les follos ou fallos, la mère, le père, le fils, peu dégénéré, on peut dire ça comme ça. Il y a les Kowalski, petit couple bien propre sur eux, si content de côtoyer une vedette, fût-elle déchue. Et puis, il y a des noms improbables, comme Gérard Lambert, voilà, à qui il va quémander des avances. Gérard Lambert, moi je ne peux pas ne pas penser à Renaud, aux chansons de Renaud. Et puis, un autre fantôme, celle qui me fait penser d'ailleurs à Gloria Swanson. C'est la baronne Lydie, qui est accro à la coque que lui fournit Fernand en souvenir. Mais en souvenir de quoi? Vous le saurez si vous lisez ce roman. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la destinée de Fernand le Gros, un personnage réel, lui. Mais si Wes Anders s'est inspiré de la vie de ce fraudeur de l'art, qui est né comme le héros en Égypte, qui a été célèbre, puis on a trouvé ses fraudes juste après, en fait, je trouve que le propos du livre est ailleurs. Est ailleurs, c'est-à-dire ressusciter l'ambiance, l'atmosphère d'un quartier de Paris, entre Blanche et Pigalle, en une série de tableaux, en fait, que je dirais extérieur, intérieur nuit, le noir et le blanc dominent, la poésie, la nostalgie aussi, et les seconds rôles, comme celui du commissaire Cabriac, qui va être chargé de l'enquête, et qui a comme compagne une ancienne prostituée, Renée. Et voilà, et ces seconds rôles, c'est digne des grands films des années 50, voire des années antérieures, hein, j'ai parlé de Sunset Boulevard, on y pense beaucoup aussi. Comme je le disais au départ, une fantaisie littéraire, brillamment menée par un écrivain, Wes Anders, que l'on est ravi de retrouver au top de sa forme. Voilà, donc je rappelle, ça s'appelle La chute de Monsieur Fernand, Wes Anders, et c'est au Seuil Policier. Alors Jacques, on change littéralement de genre.
Complètement, avec un roman noir paru à la série Noire, le premier roman de Éric Maravillas. Ce roman s'appelle La Fossoyeuse, en trois mots. Ce roman, c'est le récit de trois jours de la vie d'un junkie de banlieue parisienne. Trois jours dont on pressent dès les premières lignes qu'ils vont être ces derniers, du 12 au 14 septembre 1999. Mais le récit est aussi construit avec des flashbacks, des chapitres sobrement intitulés « Avant ». Avant, c'est dans les années 80. S'il n'y a pas eu ce très beau titre, qui résume en trois mots le roman, La Faux Soyeuse, il aurait pu s'appeler Itinéraire d'un enfant pas vraiment gâté, ou encore Quelques jours avec lui. Lui, c'est Franck. Il habite en région parisienne, entre Bagneux et Cachan. Il est accro à la dope au dernier degré. Ses journées ne sont plus que pouvoir se lever pour se procurer sa dose, se procurer ses doses. Et avant, se procurer de quoi se procurer sa dose. Une déchéance qui lui a fait abandonner presque toute humanité. Et puis il y a les passages avant, qui racontent son parcours, comment, doucement, imperceptiblement, et même involontairement au début, il en est arrivé là. La vie dans ces quartiers qui, dans les années 80, était encore agréable parfois. Éric Marvelias nous raconte la vie de la rue entre les immeubles, entre les bars. Cela commence par le chichon d'herbe que l'on fume presque innocemment, puis les petits deals qui entraînent un plus gros, voire des plus gros, les vols, les braquages, les armes qui font leur apparition, la frime avec la vie facile, qui petit à petit va perdre tout son sel avec les premiers morts, les premières overdoses. Dans un passage assez poignant, il réussit même à trouver de quoi se défoncer dans un hôpital alors qu'il est soigné pour une crise plutôt douloureuse de calculs rénaux. C'est vraiment un roman, un coup de poing que l'on se prend dans la gueule et on en redemande comme si le lecteur devenait accro lui-même au livre, au récit. Coup de poing, certes, mais surtout un coup de cœur, car ce roman est superbement écrit, sans affect, à fleur de peau, une peau pourtant transpercée de toutes parts de vilains trous d'aiguille. Il n'y a pas un mot de trop, une écriture épurée, viscérale, jusque dans l'accumulation de détails. Détails, car Éric Marvelias est bien documenté. Il ne le cache pas, ce roman a une base autobiographique très forte. Il a été lui-même junkie, mais contrairement à son personnage, il s'en est sorti. Grâce à la lecture, dit-il, et aussi bien sûr à la méthadone. Pas de morale non plus dans le roman. Ce roman, c'est ni une apologie, ni une diabolisation de la drogue. C'est un récit. Il évoque souvent, Éric Marvelias, dans ses interviews, Edward Bunker, le romancier américain. Et si son style n'est pas du tout une copie, loin s'en faut, de ce génial auteur américain, il en a déjà la puissance, la force et cette espèce d'humanité qu'ont aussi les héros, enfin je dis héros, plutôt les personnages de Bunker. Ce Frank, par exemple, ici, est somme toute plutôt un salaud, mais on n'arrive pas à le détester vraiment, ni à l'aimer complètement. Et je rappelle quand même que c'est ce roman et le premier roman d'Éric Marvelias et qu'on ne peut que vous recommander.
Donc on va rappeler peut-être, là, parce que ce n'est pas évident, donc c'est un jeu de mots, la faux. Comme ce qu'il faut
F-A-U-X, voilà, soyeuse comme la
soyeuse,
soie.
Voilà, et si on lit un peu vite, la faux soyeuse.
Et on comprend très bien ce que va être le roman dès le titre.
Hautement recommandable. Un petit peu de musique maintenant.
Voilà, donc on a beaucoup hésité. On aurait pu prendre Héroïne de Lou Reed, mais en fait on a choisi chanson de Neil Young qui s'appelle The Needle and the Damage Done. Et là, c'est une version enregistrée le 7 janvier au Carnegie Hall de New York, Neil Young en solo acoustique.
un petit Neil Young pas récent quand même, hein, qui date des années 70.
Oui.
Malheureusement, toujours d'actualité.
Et...
on va changer radicalement de style. On parle voilà, de ce grand genre littéraire, le genre noir, genre protéiforme. Un roman, on va dire, jouissif. Ça s'appelle « L'espion qui venait du livre ». C'est paru il y a peu chez Rivage Noir. Et l'écrivain s'appelle Luc Chomarin. Le thème, bien que l'on s'en défende, tout le monde a déjà lu, ou tout au moins feuilleté, un livre du style, vous savez, avec comme héros, ou SS-117, ou un Lemmy Cochon, ou ce genre de livre. Un roman que l'on appelait de gare, cigarette, whisky, petite pépée bien roulée. Et ainsi, au début du roman, on rencontre Bob Dumont, le super-héros de l'espion qui venait du livre, agent secret invincible. Mais le héros est fatigué. Et pour tout dire, l'écrivain aussi. Sans compter les lecteurs qui aimeraient bien quelques rebondissements novateurs et peut-être des femmes fatales. Un peu moins cliché que la superbe hôtesse de la Paname, à la, je cite, superbe voix de gorge, et qui évidemment s'avère être une espionne à la solde des rouges. À la lecture du premier chapitre du 110e épisode des aventures de Bob Dumont, l'éditeur, au doux nom de Delafeuille, ce qui permettra l'horrible jeu de mots « il était dur » de la feuille, évidemment. À la lecture du premier chapitre, l'éditeur défaille littéralement et décide tout simplement de se mêler de l'intrigue. Mais pas en renvoyant la copie, non, en rentrant dans le roman. Et il débarque dans le pays où est Bob Dumont à ce moment-là. Mais n'est pas personnage de roman qui veut. De la feuille la prendra à ses dépens. Bob Dumont pourra-t-il continuer d'arpenter la planète pour sauver le monde? Je répondrai, vous le saurez, en lisant le livre « L'espion qui venait du livre ». Luc Chomarin, un auteur que l'on découvre, semble bien connaître la littérature de genre, c'est-à-dire le roman policier. Il part en gros d'une situation des plus conventionnelles dans ce type littéraire, pour le tordre, le secouer, et nous livrer des scènes drôles et décalées. C'est certes une satire de ces romans d'espionnage, qui fleurissaient il y a maintenant bien longtemps chez certains éditeurs, mais avec beaucoup de nuances et de tendresse, défendant d'ailleurs de manière très intelligente, défendant ces piscopies, comme on les appelle un peu dédaigneusement souvent. Voilà, je vais vous lire un petit extrait. Donc c'est l'écrivain, dialogue entre l'écrivain et son éditeur. L'écrivain, n'est-ce pas? Donc il y a cela, et leur deux fois tragique, mais finalement clone, qui cultive la simplicité de bazar, ou sophistication du naze. Sujet-verbe, et encore, pas toujours, je. En voilà une, je vous la refais, il ouvre la porte, il ferme la porte, pas mal, non? Plus simple encore avec l'ordi, pomme C, pomme V. Faites au vif fils de simplicité, il y a cela, je vous les cite. Si je vous ennuie, vous le dites, continuez. De l'autre, il y aurait moi. Usurpateur du titre, un imposteur en somme, ni plus ni moins. La blonde laisse glisser son manteau de panthère le long de ses épaules nues. Dessous, elle ne portait qu'un string rouge. Par exemple, plus proche du guide marabout de l'électricité, question élégance de la virgule. Enfin, c'est ce que pense de la feuille. Que voulez-vous, je gagne ma vie. Parfois, au détour d'une scène, je m'amuse. C'est devenu assez rare, mais ça arrive encore. Je vous la fais brève. Vous pouvez critiquer dans l'absolu. Pas au nom d'une différence qui n'existe pas. Si on les écoute, il sort environ 200 chefs-d'œuvre indispensables par an. J'ai un doute. Voilà. Donc, c'est une vision très très particulière de ce type de livre. Mais il y a aussi une vision critique, acerbe, je dirais bienvenue du monde de l'édition, qui pense actuellement plus au merchandising et au profit espéré qu'à la satisfaction de publier un bon roman. Donc, si je devrais qualifier ce roman, j'emploierais un vocabulaire des jeunes. Voilà, je dirais que c'est un roman frais. Certes, bien loin des romans très noirs que nous vous conseillons d'habitude, mais vraiment très, très agréable à lire. Donc, ça s'appelle « L'espion qui venait du livre », Luc Chomarin, chez Rivage Noir.
Le numéro 944.
On termine...
une émission entièrement consacrée à des romans français. C'est pas souvent.
Autant, mais ça arrive quand même.
Mais ça arrive quand même. Et donc c'est un roman de Lilian Batelot qui s'appelle Terminus mon ange et qui est paru à la Manufacture de Livres. C'est un très court récit qui se passe entièrement dans un train, quasiment même dans un compartiment, avec très peu de personnages, deux en fait, plus des silhouettes, et bien sûr mon ange. Mon ange écrit avec deux majuscules et un tiret entre les deux mots. Mon ange, omniprésent, que l'on découvre petit à petit au fil des pages. Je vous rassure tout de suite, cet ange n'a ni d'aile dans le dos, ni d'auréole sur la tête, ni même sous les bras d'ailleurs.
C'est poétique, hein ?
N'est-ce pas ? Un homme, pourtant c'est très poétique en fait le roman, un homme et une femme assis l'un en face de l'autre, en route vers quelque part dans un compartiment, au rythme des tagada tagada des roues sur les rails. Un homme, une femme, impossible comme se le dit dès le début l'homme. Impossible, que va manipuler au fil de ses 120 pages Lilian Batelot. Impossible qui, on le pressent, va virer au sombre, au noir. Le terminus du titre pourrait bien ne pas être que la destination finale du train. 120 pages d'une écriture délicate, tout en émotion. Des petits détails qui finissent par faire une histoire de vie. Une écriture poétique aussi. 20 lignes superbes pour un seul sourire. Et oui, mais c'est celui d'elle, assise en face, avec son ongle cassé.
Tu vois, tu disais qu'elle n'avait pas d'aile. Elle a un aile, mon ange.
Une échappée belle, en fait. Une ébauche d'histoire d'amour. Une romance que va percuter, c'est le cas de le dire, mon ange. Un récit très cinématographique aussi, finalement. Raconté au jeu du point de vue de l'homme, en voix off, comme si une caméra était fixée sur son épaule et que la bobine défilait. Comme les rails du train qui passent. Enfin, les rails, ils ne passent pas d'ailleurs, c'est le train qui passe sur les rails. Si les précédents romans de Lilian Batelot étaient des romans destinés à des adolescents pouvant être lus par des adultes, celui-là est clairement destiné à des adultes, cependant il pourra être lu tout à fait par des plus jeunes. En fait, peu importe, c'est un coup de cœur, vraiment un très beau texte, assez court, et vraiment...
Il faudra le conseiller, je pense, à notre ami Jean-Bernard Pouy, qui dit qu'il n'est de roman noir que de roman ferroviaire.
Tout donc à
celui-ci
fait, là,
se passant complètement dans
celui-là,
le train.
Celui-là ne pourrait être que JB approuvé de, sans aucun problème.
JB pour Jean-Bernard Pouy. Oui, voilà, donc on rappelle peut-être l'éditeur, entre autres, la manufacture
de livres. La manufacture de livres, donc. Le roman s'appelle Terminus mon ange, de Lilian Batelot, qu'on est très content de retrouver en littérature adulte.
Et en si bonne forme.
Et en si bonne forme, tout à fait.
Et voilà, c'est la fin de notre émission. Donc on vous dit bye bye, à la prochaine fois. Chacun dans son coin, avec un bon bouquin.
Bonsoir.